Gilles Berset, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez coécrit « Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique » chez Odile Jacob. Denis Père, bonjour.
Oui, bonjour Nicolas.
Président de Nature and People First, vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Ben, la souveraineté, il en est bel et bien question en ce moment face à nos très grands amis américains. Hein. On s'est quasiment embrassé sur la bouche entre Biden et Macron. Mais derrière, on ne sait pas trop comment on va sortir de cette histoire.
C'est la Chine aussi, on en parlera. Mais bon.
Ouais. Michael Zemmour, bonjour. Bonjour. Maître de conférence en économie à Paris Panthéon-Sorbonne, chercheur associé à Sciences Po. Vous avez publié le système de protection sociale français à la découverte, le système français de protection sociale à la découverte. Et je voulais vous avoir aujourd'hui, car vous êtes un spécialiste des retraites, et je voulais savoir comment vous avez perçu l'ensemble des annonces d'Elisabeth Borne dans les colonnes du Parisien, c'était vendredi, sur l'âge de départ, sur les pensions, sur les cotisations, sur l'auto plein sans décote, sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les régimes spéciaux. Bon, elle nous a pratiquement tout livré.
Oui. Sur le fond, c'est pas très surpris, mais c'est la version dure de la réforme. En fait, Elisabeth Borne redit ce qu'il y avait dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, la version 65 ans. Vous vous rappelez comment des législatives, on disait c'était peut-être moins, tout ça.
C'est pas fini, hein, mais elle dit ma porte est ouverte.
Oui, la porte est ouverte, mais il y a peu de marge, manifestement. Donc 65 ans. Pour les carrières longues, on croyait que c'était 62. Quand on lit bien l'interview, on se demande si ça sera pas même 63 pour les personnes qui ont commencé à travailler très tôt. Et donc, on est dans la version dure de la réforme. Ça, c'est sur le fond. Après, sur la forme, il y a quand même deux choses étonnantes. La première, c'est de donner en gros les contours de la réforme alors même que les concertations convoquées par le gouvernement ne sont pas finies.
C'est juste.
Et puis, la deuxième chose, c'est quand même un manque de sérieux, à mon avis, de la part du gouvernement sur deux points.
Ah, allez-y.
D'abord, la mise en scène de « il faut sauver le système, c'est horrible, sinon on n'aura jamais de retraite, elles vont baisser, etc. » On sait que c'est pas vrai, le rapport de corps dit que c'est pas vrai. Il manque, selon les chiffres du gouvernement, qui en gros 12 milliards à l'horizon 2027. À l'échelle du système de retraite, c'est pas dangereux. Et surtout, il y a plein d'autres façons de faire que d'imposer 3 ans de travail en plus en même pas 10 ans, ce qui est une réforme très rapide. Donc sur le fond, la mise en scène est pas sérieuse. Et puis après, quand on dit, vous dites, il y a des compensations. Même les compensations, elles sont pas bossées. Je vous donnais juste un exemple. Allez-y. On dit, ce serait une bonne idée de renforcer le cumul emploi-retraite.
Oui.
Pourquoi pas ? Effectivement, à l'approche de la retraite, on pourrait envisager une cessation progressive d'activité sans baisser les droits à la retraite.
C'est la retraite progressive aussi, il y a l'autre dispositif.
Pourquoi pas ? Mais vous croyez vraiment que le cumul emploi-retraite qui n'est pas utilisé aujourd'hui quand la retraite est à 62 ans, on va l'utiliser plus quand la retraite sera à 65 ans ?
La question mérite d'être posée.
C'est pas sérieux. Bon. Et y a plein de choses comme ça.
Il y en a très peu, je crois, des cumulons pour retraite, en fait.
Oui, il y en a très peu. Si on veut les renforcer, pas de problème, mais c'est pas en mettant la retraite à 65 ans qu'il y en aura plus. Bon. Soyons logiques.
Gilles Berset, votre avis par rapport à cette situation ? Michael Zemmour nous dit le système il n'est pas fondamentalement menacé, contrairement à ce qu'on nous dit, et ce serait une version de réforme des retraites la plus dure qu'on puisse imaginer. Comment vous avez perçu l'intervention ?
D'abord, je trouve ça assez normal que le gouvernement avance, des lignes de proposition par rapport à cette réforme, tout en disant, bon, c'est des lignes de départ et la négociation s'amorce, quoi. Donc, il est clair que la réforme des retraites ne sera pas celle qui a été annoncée par la Première ministre. Ça sera quelque chose d'autre qui résultera d'interactions entre le gouvernement, bien sûr, et les partenaires sociaux. On verra s'il peut y avoir des points de rapprochement sur la carrière longue, sur la pénibilité, même sur l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est une première chose.
Je pense que l'âge, il peut bouger encore. Vous dites 65 pour pouvoir reculer.
Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Bon, par ailleurs, sur ce que nous disent les projections du corps. Tout le monde peut trouver ce qu'il veut dans les projections
c'est
du corps.
C'est un peu vrai, oui.
Il y a beaucoup de scénarios qui ne sont pas réellement probabilisés, et donc chacun peut y trouver, peut y faire son marché. Alors, quand même, quand on est un pays comme la France, on peut regarder un petit peu au-dessus de la palissade et se dire, mais qu'est-ce qu'ils font les autres pays face à ce problème du vieillissement de la population? Bon, moi je regarde, je vois que les pays autour de nous, et en particulier ceux qu'on considère comme les plus pertinents, le benchmark en quelque sorte en termes d'inégalités faibles, à la fois de patrimoine et de revenus, eh bien, sont des pays qui augmentent l'âge de départ à la retraite. Le monde entier, le monde avancé autour de nous, prolonge l'âge de départ à la retraite. Alors, on a peut-être en France toujours des recettes magiques, pour faire face à cette question de cette bonne nouvelle, hein, de l'allongement de l'espérance de vie et même de l'espérance de vie en bonne santé, hein, il faut le souligner, qui depuis 2010 s'est allongé de quasiment presque deux années depuis 2010. Néanmoins, peut-être que tous les autres pays ne sont pas complètement cinglés et qu'en France, il faut éviter de rechercher des voies originales pour le financement de pensions de retraite qui représentent aujourd'hui déjà un bon 14% du produit intérieur brut. Maintenant, il faut que cette réforme soit équitable, avec un bon traitement des carrières longues, avec un traitement de la pénibilité, ce qui n'est pas simple. Ce qui est même très très complexe.
Ils sont le plus vague aujourd'hui.
Ce qui est même très très complexe.
Le compte de pénibilité 2013-2014 était si complexe qu'il était inapplicable.
Donc, et je dirais que les raisons cette réforme des retraites, c'est pas simplement l'équilibre des caisses de retraite. C'est aussi l'augmentation du PIB par habitant. Et donc, l'augmentation du niveau de vie, par ailleurs, de chacun. Voilà. S'il y a plus de PIB, il y a plus de recettes fiscales, aussi de TVA, aussi d'impôts sur le revenu. Et ça, ça facilite évidemment le rétablissement de nos finances publiques. Et puis, l'augmentation du PIB par habitant, ça fait plus de revenus à distribuer, du pouvoir d'achat en plus.
J'ai constaté, enfin, a priori, même les opposants à la réforme des retraites ne nient pas le fait que d'être passé de 60 à 62 ans a amélioré le taux d'emploi des seniors en France. Réaction de Julien, qui me dit un grand merci de recevoir Michaël Zemmour. Je suis pas d'accord avec lui, mais c'est bien de recevoir des gens qui ont de vrais arguments, ça fait avancer le débat. Monsieur Denis Père, votre lecture.
Oui, ma lecture, moi j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Gilbert, enfin je suis très en phase avec sa réaction, sauf sur un point simplement, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de volet capitalisation du tout dans cette réforme. Croissance Plus et l'Institut Molinari avaient fait des propositions il n'y a pas très longtemps pour avoir une petite dose de capitalisation modeste, dont on sait que c'est une manière d'arriver aussi à équilibrer le système à terme avec la démographie qu'on a aujourd'hui, et qui a aussi d'autres avantages considérables pour l'économie en créant un actionnariat stable de longue durée. On sait que l'économie américaine est très largement financée par les fonds de pension américains, d'ailleurs une partie des économies européennes aussi. Donc on sait que c'est une solution. Elle existe en France aujourd'hui, mais elle est réservée à une petite élite, hein, à quelques fonctionnaires à travers les RAF, qui marchent bien d'ailleurs, hein, qui a plutôt très bons résultats. Même les syndicats aujourd'hui défendent les RAF, hein, ils siègent au Conseil et ils voient la progression du fonds RAF régulièrement. Et donc c'est dommage qu'il y ait quelque part une espèce de discrimination et que finalement l'ensemble des Français puissent pas en bénéficier et par ailleurs permettre d'avoir un actionnariat stable. Hein, on l'a vu quand on a vu nos grandes entreprises industrielles disparaître, être rachetées facilement parce qu'il n'y avait pas d'actionnaire industriel stable de longue durée comme pourrait l'être des fonds de pension. Ben, on voit bien que c'est un enjeu qui dépasse même largement le débat sur les retraites.
Bon, les fonds de pension, effectivement, il en est absolument pas question, même si à l'origine, à la fin des années 90, c'était bien un gouvernement de gauche qui avait pu imaginer les mettre en place. L'OCDE, hein, dans une note publiée la semaine dernière, plaide exactement pour les fonds de pension en disant que c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le financement des entreprises, c'est aussi bon pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités. Les fonds de pension...
Pour rappeler ça, effectivement, hein, 1 euro en répartition 20 ans après, ça pèse toujours 1 euro. 1 euro en capitalisation, 20 ans plus tard, c'est 2, 3, 4 euros. Hein, donc c'est en termes de pouvoir d'achat.
Je vais le faire réagir.
On l'a bien vu historiquement sur les 40 dernières années. Au moins, c'est ce qui s'est passé.
Michaël Zemmour, la capitalisation, il n'en est pas question aujourd'hui. Hein. C'est un sujet qu'on évoque là dans notre débat, mais ce n'est pas du tout aujourd'hui à l'ordre du jour.
D'abord, la capitalisation, ça existe en France. La loi Pacte a encore simplifié les dispositifs. Il y a les PERP, il y a les PERCO. Donc, vos collègues qui gèrent des fonds de capitalisation seraient vexés si vous disiez que ça n'existe pas.
C'est marginal.
Ça marche pas parce que la France a fait le choix d'un système de haut niveau de protection en retraite et que du coup, ça rend relativement superflu un système supplémentaire. Ensuite, dire que c'est plus rentable, c'est comme si vous disiez les gagnants au loto, c'est plus rentable que de pas avoir joué. Bah oui, évidemment, c'est comme ça à la bourse. Mais en réalité, ça, c'est ce qu'on racontait dans les années 80. Que c'est plus rentable la capitalisation. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que la capitalisation, c'est plus volatile et plus risqué. Donc, en moyenne, ça rapporte plus. Et puis, si vous liquidez votre retraite la mauvaise année, vous avez beaucoup moins de retraite qu'en répartition. Moi, je voudrais revenir quand même sur l'histoire du niveau de vie.
Bon, alors, juste avant le niveau de vie, Michaël, quand vous parlez aujourd'hui avec des gestionnaires professionnels, c'est un métier, hein, la gestion d'actifs. Entre celui qui a 30 ans et celui qui en a 56, il y a une façon de gérer les fonds avec des prises de risque complètement différentes en fonction de l'âge que vous avez. Et quand vous arrivez à proximité de la retraite, on a très largement sécurisé vos investissements dans des produits peu volatiles, peu exposés, avec de la dette souveraine, histoire justement de sécuriser le parcours. Enfin, voilà, il ne faut pas caricaturer la capitalisation comme si elle pouvait faire pchit d'un coup d'un seul en cas de retournement de marché. Bah,
c'est quand même ce qui s'est passé dans de nombreux pays où, finalement, quand il y a eu des crises de capitalisation, qui c'est qui est venu à la rescousse ? Soit la Banque centrale,
on l'a vu en Grande-Bretagne,
soit les États. Donc, je ne veux pas non plus la diaboliser, mais dire que ça serait la recette miracle et que ça rendrait les gens riches, enfin, c'est une fausse idée.
C'est pas ce que je dis. Bon, c'est juste un complément intelligent et qui permet d'équilibrer le système.
Le niveau de vie, qu'est-ce que vous voulez dire sur le niveau de vie ? Parce que moi, après, je voudrais revenir sur ce que disait Gilbert Sept.
Mais justement.
Tout ça est un point de départ et la négociation va nous faire atterrir sur quelque chose d'autre qui n'est pas exactement la feuille, les feuilles que nous avons pu lire vendredi.
Sur le niveau de vie des seniors, il y a vraiment, moi je pense que fondamentalement, on n'est pas prêt pour cette réforme. On n'est pas prêt d'abord parce que les dernières réformes qui ont allongé la durée de cotisation, on n'a pas fini de les manger. C'est-à-dire que la durée de cotisation, elle est aujourd'hui à 42 annuités, elle va continuer à aller jusqu'à 43 annuités.
Oui, c'est la réforme Touraine, ça.
La durée de la retraite aujourd'hui, des gens qui partent aujourd'hui, et l'année prochaine, et l'année d'après, elle est plus courte que les gens qui sont partis il y a 10 ans. Parce que les dernières réformes ont été dures. Et le marché du travail, il ne s'est pas adapté à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui sont en emploi au moment de la retraite, ils sont restés en emploi, ça y a pas de souci pour eux, sauf qu'en général, ils n'en ont pas envie. Mais à côté de ça, vous avez 3 ou 4 personnes sur 10 qui ne sont pas en emploi à 60 ans et qui restent de plus en plus longtemps au chômage, au RSA, en invalidité. Qui sont ces personnes ? C'est massivement des ouvriers, à peu près un ouvrier sur 3. C'est la catégorie socio-professionnelle la plus nombreuse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des personnes qui sont à 2 ans de la retraite, qui sont déjà au chômage parce qu'elles ont subi un plan social. Le gouvernement vient d'annoncer qu'au lieu d'avoir jusqu'à 3 ans de chômage, ces personnes vont avoir que 27 mois de chômage.
C'est la réforme de l'assurance chômage, ça.
Elles viennent donc de perdre 9 mois de chômage et de savoir qu'elles vont faire 9 mois au RSA. Et là, qu'est-ce qu'on leur dit ? En plus, la retraite va reculer de 4 mois pour la première génération, puis de 8 mois, puis de 12 mois, etc. Donc on est en train de construire un sas de précarité pour les seniors, et pas 10 000, 20 000, des centaines de milliers de personnes.
Forcément, dans une réforme un petit peu équilibrée, il y a forcément des solutions pour prendre en compte le sujet que vous décrivez. Je ne sais pas combien ça représente de personnes par an sur le nombre de départs à la retraite. C'est quoi ? C'est 700 000 retraites par an ?
700 000 départs par an.
Sur les 700 000, il y a combien de cas un peu complexes qu'il faudrait essayer, auxquels il faudrait essayer d'apporter des réponses opérationnelles
en fait. Personnes qui ne passent pas de l'emploi à la retraite, il y en a à peu près 3 sur 10 ou 4 sur 10. Et il y a des secteurs où c'est massif. Le secteur du nettoyage, c'est massif.
Mais alors,
Le gouvernement ne veut pas entendre parler de la pénibilité par métier. Il ne veut pas dire pour le secteur du nettoyage, on partira plus tôt.
Par branche. Normalement, on dirige vers une négociation par branche.
Le président de la République dit des trucs individuels. Je ne veux pas de trucs par métier. Bon. Aujourd'hui, la pénibilité, elle est prise en compte comment ? Il y a quelques facteurs qui ont été réduits.
Oui.
Et puis, en fait, elle est prise en compte quand vous êtes vous-même usé. C'est-à-dire que si vous pouvez prouver... D'ailleurs, la Première ministre l'a redit dans son interview. Si vous pouvez prouver que le travail vous a rendu hors d'usage, alors vous pouvez partir plus tôt. On a aucun système de prévention vraiment efficace.
Mais ce que
donc,
vous dites,
oui. On n'est pas prêt pour cette réforme. Deuxième point pour lequel on n'est pas prêt, et après je vous rends la parole. Vous êtes au courant qu'il y a une crise macroéconomique qui s'annonce.
Ça sent un peu la récession.
Février, ça sent un peu la récession.
Oui, ça sent un peu la récession.
Tous les modèles macro, ceux du Trésor, ceux de l'OFCE, nous disent qu'on fait une réforme de retraite à court terme, ça génère du chômage et ça génère un effet récessif.
La courbe en J, la réforme.
Et donc, même François Eckel, qui vient de temps en temps sur ce plateau, nous dit c'est pas le moment. Il va peut-être falloir ajourner un peu.
Bon.
Donc moi, je pense qu'on n'est pas prêt.
De toute façon, la courbe en J, peu importe le moment où vous la faites, vous l'avez, votre courbe en J des réformes.
Mais si vous le faites au moment de la récession, c'est moins bien.
Par rapport à ce qui a été dit, Gilbert Sept et Denis Père... Allez-y, Gilbert.
J'aurais porté quand même quelques petits détails, la connaissance. L'âge de départ à la retraite, 64 ans en Suède. L'âge de départ à la retraite, 67 ans en Allemagne, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas. L'âge de départ à la retraite, 69 ans au Royaume-Uni, en Italie. Le monde autour de nous, je pourrais continuer la liste comme ça.
C'est quel âge de départ ?
Le monde autour de nous, c'est celui-là. Nous, on peut être à part. On peut penser qu'on est un îlot préservé de toute nécessité économique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une aspiration très forte en France pour l'augmentation du pouvoir d'achat. On le voit en ce moment dans les débats qui existent en ce moment. Augmenter l'âge de départ à la retraite, ça augmente la population sur le marché du travail, ça augmente la population en emploi. D'ailleurs, on voit que le taux d'emploi des seniors sur les 20 dernières années a augmenté de quasiment un point par an en France. un point par an. Vous voyez, le problème d'emploi des seniors qui vient d'être évoqué se heurte quand même à une contradiction avec les données statistiques. Un point de plus par an pour le taux d'emploi, pour le taux d'emploi des seniors.
Il y a des personnes
et l'augmentation, le taux de chômage des seniors n'est pas si. Le taux de chômage des seniors, je t'ai pas interrompu, s'il te plaît. Le taux d'emploi des seniors n'est pas si élevé que ça.
Taux de chômage,
ça c'est le taux de chômage. Pardon.
Le taux de chômage des seniors, en théorie, sous le taux de chômage national,
n'est pas si élevé que ça. Et le taux d'emploi des seniors chute brutalement à partir de 60-62 ans, en rapport avec cet âge de départ à la retraite. Ah oui. Et la possibilité, évidemment, de bénéficier de dispositions comme les 3 ans d'indemnisation chômage à partir de 55 ans. Non, cette augmentation de l'âge, c'est un petit peu du bon sens, c'est un moyen aussi d'augmenter le niveau de vie de chacun, le pouvoir d'achat de chacun. C'est pour ça que le pouvoir d'achat, d'ailleurs, des ménages allemands, des ménages de beaucoup de pays, est beaucoup plus élevé que le nôtre. Hein. C'est parce que la population en emploi est quasiment de 10 points supérieur à nous. Donc ça,
c'est un sujet clé.
C'est un sujet évidemment clé. Alors maintenant, c'est jamais le bon moment pour réformer. J'entends bien. C'est jamais le bon moment. Quand tout va bien, on se dit, faut-il réformer, tout va bien. Quand tout va mal, on se dit, ah, ça va mal, il faut pas réformer. Bon, moi, je considère que c'est évidemment le bon moment pour réformer. Et cette réforme, associée à la réforme de l'indemnisation chômage, qui laisse la France dans la situation des pays dans lesquels la durée d'indemnisation est la plus longue. C'est pas le pays dans lequel c'est le plus long. Néanmoins, c'est l'un des pays dans lequel c'est le plus long.
C'est l'un des.
Vous voyez, c'est pas un pays quand même qui pousse à la précarité une population énorme. Dans les autres pays, c'est plus court. Bon, ben, il me semble qu'on va dans le bon sens, comme le rachat des jours RTT pour les ménages, pour les salariés qu'ils veulent. Ben, ce sont des mesures de pouvoir d'achat.
Qu'est-ce que je voulais dire, Michael Zemmour ? L'histoire que vous décrivez, alors, le problème de ces personnes, de ces seniors qui n'ont plus d'emploi, qui sont sur la touche avant l'âge de départ, qui sont les plus exposés à des métiers pénibles, ce problème a bien dû se poser dans plein de pays qui ont reculé l'âge de départ à la retraite. Alors moi, je suis moins expert que vous sur le sujet. Comment ils ont fait, les Allemands, comment ils ont fait tous ces pays qui ont repoussé l'âge de départ à la retraite? Ils ont aussi des gens qui sont peu qualifiés, ils ont aussi des gens qui, arrivés à cet âge-là, n'ont plus la possibilité de faire des métiers pénibles. Il a bien fallu... Alors soit c'est le tiers-monde, soit on a apporté des réponses quand même.
Alors, trois ou quatre éléments de réponse. D'abord, sur les âges de la retraite, en fait, la France va se retrouver dans les âges effectifs de la retraite, pas les âges légaux, parce qu'il y a toujours des dispositifs, et c'est ça.
Il y a des
âges effectifs, à peu près au même niveau que ses voisins. Alors, certains ont aussi la volonté d'aller plus loin encore, hein, mais à peu près au même niveau que ses voisins. Et dans les âges de fin d'emploi, on est à peu près au même niveau que les voisins. Maintenant, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, le travail est plus dur en France. Manifestement, ils l'usent plus. Vous donniez les pays d'Europe du Nord. Effectivement, les gens partent plus tard, mais l'usure au travail est très différente. On n'a pas réussi à améliorer les conditions de travail de telle sorte qu'on puisse travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Je suis d'accord avec vous, on a un taux d'emploi des seniors plus faible, mais il y a une façon exigeante d'augmenter le taux d'emploi des seniors. C'est permettre, alors qu'on a une retraite à 62 ans, aux personnes qui sont en emploi à 50, 51, 52, de rester en emploi jusqu'à 62 ans. Et pour ça, il faut au moins deux choses. La première, c'est changer les conditions de travail, parce que dans le secteur des EHPAD, dans le secteur du nettoyage, c'est pas possible. C'est tellement pas possible que les employeurs vous mettent dehors avant. Vous êtes usé avant la retraite. Ça, c'est une vision ambitieuse pour augmenter l'emploi des seniors. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire on décale l'âge de la retraite, on verra bien qui tient. Et dans le « on verra bien qui tient », il va y avoir une dégradation des conditions de vie massive. Et dernier élément sur les autres
pays. Et on marque une pause après.
Tout à fait. Les citoyennes et les citoyens dans les autres pays sont pas très contents de leur système de retraite. Il y a des pays où les gens cumulent emploi-retraite, pas parce qu'ils ont envie, mais parce que leur retraite ne suffit pas. Il y a des pays où il y a beaucoup de monde en invalidité, en incapacité, en handicap, dans des proportions très larges, qui jouent à peu près le rôle de l'assurance chômage en France. Donc faut pas peindre les choses comme ça de manière complètement binaire entre la France et les pays étrangers.
Emmanuel Grimaud qui me dit, le vrai chiffre est 10-12% pour ceux qui sont au chômage avant la retraite. C'est un spécialiste du sujet.
Oui, mais c'est...
Il y a eu une...
Il faut pas regarder juste le taux de chômage. Il faut regarder, quand vous prenez la population qui prend sa retraite, vous en avez à peu près 3 ou 4 sur 10 qui n'est pas en emploi et qui était en emploi à 50 ans. Ce n'est pas des gens qui ont jamais bossé.
On n'arrête pas de se battre sur la vérité de ces chiffres des seniors avant la retraite.
Je les ai regardés de près.
Mais j'imagine, on marque une pause. Vous réagirez, Denis Père, et puis on va clore ce sujet avec des pistes que vous avez évoquées dans un article d'Alternatives économiques pour combler le déficit des retraites sans se fatiguer. À tout de suite.